Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une femme dont la fille a succombé sous les coups de couteau de son agresseur qui tentait de la violer dans un train de banlieue. Ce crime est survenu le 25 novembre 2007. Son auteur a été condamné à la peine maximale. En 1995, il avait violé une femme dans le même train de banlieue, viol pour lequel il avait purgé une peine de 3 ans d'emprisonnement. Elisabeth Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'avoir accepté notre rencontre. Anne-Lorraine est votre fille. Elle avait 23 ans au moment des faits. Sa mort est un drame qui a touché largement et qui a aussi posé la question de la récidive et de la dangerosité des violeurs. Alors, vous avez déclaré un jour « Ma souffrance est à perpétuité ». Je voudrais vous demander, 18 ans après l'assassinat d'Anne-Lorraine, comment votre souffrance a-t-elle évolué ?
La perte d'un enfant, on s'en remet jamais. Alors, elle a évolué parce que bon, ce n'est plus du tout la même perception. Mais quand on perd un enfant, il reste tout le temps présent avec soi. En fait, c'est pas que je ne pense pas aux autres, aux 4 autres qui sont là, mais Anne-Lorraine est tout le temps avec moi. C'est une perte irréparable. Je pense que voilà, c'est ma souffrance est tout le temps là. Bon, alors elle n'est pas. J'arrive à en parler sans éclater en sanglots. Donc, il y a des choses qui s'atténuent avec le temps, mais la blessure reste intacte.
Qu'est-ce qui est consolant pour vous ? Qu'est-ce qu'il a été ? Qu'est-ce qu'il l'est encore sur ce chemin de croix ?
Alors, ce qui est consolant, c'est d'abord que lorsque l'innommable est arrivé, on a eu des grâces pour affronter chaque détail pratique. Alors ça, c'était au moment du décès d'Anne-Lorraine. Mais le moteur qui nous fait avancer, enfin moi qui me fait avancer, c'est mes autres enfants. Bon, je suis l'heureuse grand-mère de 15 petits-enfants. Je pense que ça, c'est un moteur. Anne-Lorraine a été très courageuse. On ne peut pas s'arrêter. Enfin, elle nous oblige. Ça fait partie des... On ne pouvait pas s'arrêter. Et je suis croyante. J'ai eu des signes qui m'ont remis debout. Les chemins du bon Dieu sont compliqués, mais je pense que j'ai vraiment chevillé au corps le fait qu'il prend soin de moi, même si c'est compliqué.
Quelle place tient et a tenu, surtout au moment du jugement, la justice dans votre deuil ? Quelle étape est-ce que ça a représenté pour vous ?
Une étape obligatoire, parce que je veux dire, d'abord, il fallait l'arrêter. Alors, c'est grâce à la première victime qu'il a reconnu qui fait qu'on a pu avoir son ADN. Et bon, voilà, il a été arrêté et reconnu coupable. On a été très bien entouré par la justice à ce moment-là. Le président du tribunal a été vraiment exceptionnel, le procureur génial. Et nous ne connaissions pas d'avocats dans nos amis. On ne connaissait pas beaucoup d'avocats, on n'en connaissait qu'un seul, qui était un très bon ami, qui nous a accompagnés. Donc ça a été fait en délicatesse et avec une présidente qui a vraiment eu le souci de nos enfants, qui nous prévenait quand il fallait les faire sortir du tribunal. Enfin, vous voyez, je veux dire, donc on a pu. Enfin, à la fin, si vous voulez, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit mis hors circuit pour toujours. Là, actuellement, il a la perpétuité, mais assortie d'une mesure de sûreté. De 22 ans. Donc, à partir de 22 ans, il peut demander à être libéré. Pour moi, c'est inadmissible. Donc, il faut savoir que la perpétuité n'existe pas en France. Voilà. Donc, si vous voulez, pour nous, ça a été une étape obligatoire, parce qu'il fallait l'arrêter et le condamner. Mais si vous voulez, quelque part... Je tremble à l'idée qu'il puisse ressortir et que d'autres enfants qui actuellement ont peut-être l'âge de notre fille vont recroiser son chemin. Donc, dans notre pays, on permet de tuer encore à ces gens-là. Il recommencera. Enfin, je veux dire, s'il a eu la perpétuité, c'est que enfin, on a pris en compte alors que la première victime n'avait pas été reconnue. Elle a été très courageuse, mais on lui a dit, ma pauvre fille, tu te fais des idées, quoi.
La mort d'Anne-Lorraine a été, je l'ai dit, sortie un événement public, et nos auditeurs s'en souviennent sûrement. Cet événement même a eu une dimension politique. Comment est-ce que toutes ces réalités ont interféré pour vous dans votre deuil, c'est-à-dire dans cette réalité très intime de la perte de votre fille et de l'apprentissage de la vie sans elle ? Vous êtes confronté à des prises de position, à des interférences, à des écrits qui vous ont sans doute choqué. Comment on vit avec tout ça ?
C'est pas évident. C'est vrai que alors on a quand même eu une certaine, on a été relativement préservé pour des écrits. On n'a pas eu de propos trop infamants, parce que quelquefois quand je vois le meurtre de Philippines où il y a eu des affiches arrachées, nous on n'a pas été dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que ça a eu vraiment notre tranquillité. Mais comme Anne Lorenz est destinée à être journaliste, très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse discuter avec les journalistes pour qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Et c'est mon mari qui a porté la parole, qui a pris sur lui qu'une seule parole pour la famille. Et ça nous a protégés, parce que c'est lui qui allait quand même... Plus volontiers.
C'est lui qui a pris les coups aussi.
Parce oui, qu'on au se contact, souvient... le mur des cons. Ouais. On s'est repayé un procès. Le syndicat de la magistrature qui a eu bien du mal à reconnaître en instance que c'était une des excuses du bout des lèvres. Mais une fois l'instance finie, il nous a collé un appel et la cassation. Alors voyez comme quoi il prenait en compte notre détresse, il s'en fichait royalement. Je pense qu'on représente tout ce qu'il ne supporte pas.
Donc il y avait bien une dimension très, très politique. Vous avez évoqué, en commençant du point de vue de la mort d'Anne Lorraine et de la perte que ça représente, à la fois une chose finalement très apparemment contradictoire, c'est « je vis en permanence avec la conscience de sa perte et en permanence avec elle ». Enfin, il y a avec et sans. Comment ça s'incarne pour vous ? Quelle est cette présence d'Anne Lorraine dans votre vie ?
Anne Lorraine n'était pas un bébé quand on l'a perdue, elle avait 23 ans. Donc, elle a des années de vie, des réactions, des discussions. Donc, tout ça, ça reste présent dans mon cœur, c'est évident. Et quand je revis certaines choses, puisque mes enfants grandissent, mes petits-enfants grandissent, on parle très naturellement de leur tante ou de leur sœur. Je pense que je l'ai porté pendant 9 mois. Tout ça, c'est des petits cadeaux que j'ai au fond de moi qui ressurgissent à n'importe quel moment.
Enfin, est-ce qu'elle est présente dans la prière ?
Bien sûr. De toute façon, je fais partie d'un groupe de prière des mères.
Ouais.
Donc, Anne Lorraine, c'est notre première de cordée. Hein, donc, bien sûr, je lui demande d'intercéder pour ses frères et sœurs, pour tout le monde. Enfin, moi, de ma famille, je suis la seule survivante, ils sont tous au ciel déjà. Donc, je vis un pied ici, un pied là-haut déjà. Je crois profondément à la communion des saints. Donc, Anne Lorraine est une grande force pour ses frères et sœurs et toute la famille. C'est évident. Pour moi, c'est une aide au ciel.
Et je me suis laissé dire à propos de tous vos deuils que vous vivez quelque chose, pour le coup, de très incarné. Non pas que vous avez remplacé la perte de vos frères et sœurs, je ne sais pas qui est mort dans votre famille, mais vous avez comme ça des amis de cœur très chers qui sont un peu... Racontez-nous, c'est beau ça.
Alors en fait, j'avais un frère et une sœur. Mon frère est décédé en sortant de son établissement à 18 ans. Il a pris une planche sur la tête, il est mort sur le coup. Et ma sœur est morte en 2004, ma sœur aînée, d'un cancer. 52 ans, donc voilà. Et je trouvais ça triste que mes enfants n'aient plus d'oncles et de tantes, donc je me suis adoptée des sœurs de cœur. Voilà, mais j'en ai perdu une en décembre, il y a peu de temps. Et ils les appellent oncles et tantes, et je trouve que c'est super, parce qu'en fait, on a vraiment une grande communion avec ces gens.
Quelle est votre foi, Elisabeth Schmitt ? J'entends par là, après toutes ces pertes qui peuvent être aussi... des facteurs de révolte, au fond, et de doute, et de se dire, mais où est Dieu ? Où est Dieu dans ma peine ? Qu'est-ce que tout cela a généré en vous ?
Alors, plusieurs choses. Moi, j'ai cette grâce de jamais douter que Dieu ne veut que des bonnes choses pour moi, même si je ne comprends pas tout. Je vous dis, les chemins du bon Dieu sont
compliqués.
Oui, vous avez
dit tout à l'heure, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais j'ai cette grâce-là. Et je trouve que par des signes concrets, j'ai vu vraiment des signes de soins pour nous, quand c'était très difficile. Vraiment, on a eu des... je vous racontais, la veille d'Anne-Lorraine, 24 heures sur 24 jusqu'à son enterrement, mais plein de signes qui fait que je sais que le bon Dieu prend soin de moi. Et voilà, donc ça, c'est très important.
Il n'a pas empêché les malheurs, mais il les accompagne.
Voilà, il les accompagne. Et je vis comme si c'était mon dernier jour tous les jours.
Ah oui.
Voilà. Comme ça, j'essaye de ne pas me fâcher. J'embrasse. Je veux toujours embrasser mon mari avant de partir. Et voilà. Et je me dis qu'il faut vivre sa journée comme si c'était la dernière, parce qu'on ne sait pas quand le bon Dieu nous rappelle. Donc
tous les matins, quand vous vous réveillez, c'est un peu votre première pensée, c'est de dire je vais la vivre. Il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté de vivre d'une certaine manière.
Voilà, comme si c'était. Voilà, parce qu'on ne sait pas. De ne pas avoir de regrets, si vous voulez. Parce que je trouve ça très bête.
De ne pas entretenir de rancune.
Oui, alors quelquefois, ça me fait peut-être avoir quelquefois peut-être un peu tendance à laisser couler certaines choses, parce qu'on se dit, ça ne vaut pas la peine. Voilà, donc ça, c'est un grand enseignement pour moi, c'est de me dire que voilà, il n'y a rien de grave que la mort, hein, qui est irrémédiable. Donc, on ne va pas... On ne va pas trop se mettre la rate au courbouillon. Hein,
Elisabeth Schmitt, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes la mère d'Anne-Lorraine et que vous êtes venue aujourd'hui témoigner de la façon que vous avez de vivre sans elle et avec elle dans la foi.
Oui, je vous remercie.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, Véronique Elzieux.
À l'occasion de l'année jubilaire, le pape marque le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, à l'origine de l'un des deux credos. Il a mis en avant cette profession foi comme un signe d'espérance pour le monde. Mais pourquoi ? C'est ce que nous pourrons entendre dans quelques instants. À tout de suite.